Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Tourne-Page, une émission préparée et présentée aujourd'hui par Yves Bastide et Bernadette Loison. Bonjour Yves.
Bonjour.
L'autre jour, vous tempêtiez en disant « mais dans Simenon, il n'y a pas que les Maigret ». Alors je me suis dit que peut-être vous auriez des choses à nous dire.
Ah, oui, parce que Georges Simenon, évidemment tout le monde connaît Maigret. Il est aussi célèbre que Miss Marple, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. Bon. Mais en réalité, quand on regarde l'œuvre de Simenon, il a écrit 75 Maigret. Mais à côté de ça, il a écrit en tout 192 romans. Donc il a écrit beaucoup plus de romans où n'apparaît pas le commissaire Maigret, Jules, qu'il n'a écrit de Maigret. Alors évidemment, on connaît Maigret parce qu'il y a eu, je crois, 350 téléfilms. Enfin, c'est incroyable le nombre, puisque... Alors, à la télévision, il y a eu Jean Richard, il y a eu Bruno Kremer. Maintenant, il y a une série anglaise où c'est un Anglais qui fait Maigret. Bon, c'est un personnage récurrent. Au cinéma, il y a eu aussi des Maigret comme... Alors, le plus connu, c'était peut-être Jean Gabin. Le plus inattendu, c'était peut-être Gino Cervi, l'Italien. Mais dans les romans où il n'y a pas Maigret... Il y a aussi des perles, des romans qui sont extraordinaires. Alors, je vais citer deux exemples, je pense que les gens connaissent. Par exemple, Le Chat. Vous savez, le film qui a eu autant de succès avec Simone Signoret et Jean Gabin, c'est d'après Simenon. D'accord ?
Oui.
Il y a eu les fiançailles de Monsieur Hir, traduit par Panique au cinéma avec Michel Simon. C'est aussi du Simenon, etc. Donc, je pense qu'on a intérêt à... plonger dans les romans qui ne sont pas forcément des romans policiers, quoique ce ne sont pas vraiment des romans policiers, mais il y a toujours une intrigue qui pourrait facilement tourner vers le roman policier.
On les appelle les romans durs, c'est ça ?
Ah, c'est lui qui... C'est Simenon. À la fin de sa vie, Simenon n'écrivait plus, il dictait. Il dictait au magnétophone. Et il appelle ses romans des romans durs. Alors, il ne faut pas oublier que Simenon a quand même une chose particulière. Il est, à l'origine, au départ, il est journaliste. C'est donc quelqu'un qui a pris l'habitude d'observer les gens, de les écouter, d'essayer de les comprendre, ce que devrait faire tout bon journaliste. Ce n'est pas toujours le cas actuellement, mais ce que devrait faire tout bon journaliste. Et cette formation de journaliste qu'a Simenon l'a beaucoup servi tout au long de sa carrière.
Alors c'est quelqu'un qui écrit avec énormément de facilité pour avoir ce nombre de volumes.
Je ne sais pas.
Non ?
On a l'impression que c'est écrit avec beaucoup de facilité, que c'est écrit au fil de la plume. Honnêtement, je n'y crois pas tellement. Je crois que c'est quelqu'un qui écrivait assez facilement, mais qui veillait toujours à ce que ce qu'il écrivait, soit sans graisse inutile, qu'il se soit réduit à l'essentiel. Ce qui l'intéressait, c'était l'essentiel. Alors, est-ce que ça lui était facile ? Je ne sais pas. Je n'en suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que ces romans aient été écrits comme ça au fil de la plume. Je peux me tromper, hein, je ne sais pas. De toute façon, il est décédé, donc il n'y a pas prescription.
En tout cas, pour les livres qui ne sont pas des Maigret, il y a tous les éléments pour faire un roman. Dur ou
tous,
pas.
Tous.
Hein, il y a roman, l'intrigue, les phases et différentes phases.
Je pense
phases.
À un film qui n'a pas eu beaucoup de succès. Pourtant, il était joué par Maurice René et par Annie Girardot. C'était Trois chambres à Manhattan, d'après toujours Simenon. Et j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'en parle. Ça aurait pu virer au roman policier, oui.
La limite est faible, quelquefois. Fragile.
Ah ben, vous savez, entre... je ne sais plus... où j'ai lu ça, mais entre le récit journalistique et le crime, il y a parfois une marge très, très, très étroite.
Les voisinages. Vous avez choisi un premier extrait, je crois.
Non, alors, j'ai choisi d'abord un roman parce que c'est un roman qui, quand je l'avais lu, qui m'avait beaucoup frappé.
Et qui s'appelle, on ne l'a pas dit encore.
Qui s'appelle Les Complices.
Les Complices, bon.
Alors, pourquoi c'est un roman qui m'avait beaucoup frappé ? Parce que c'était une question... je crois que tout le monde, un jour ou l'autre, a été amené à se poser. Bon, l'histoire, le départ est très, très simple. C'est le héros, qui est chef d'entreprise, s'appelle Joseph Lambert, se trouve dans une voiture avec sa secrétaire. qu'il est en train de, on va dire pudiquement, de lutiner. Et sa voiture se déporte, provoque un accident. Et le car qui arrivait en face de lui fait une embardée. Ce car transportait des enfants. Le car dévale le talus, prend feu. Et tous les occupants sont tués, sauf une des gamines qui, à la fin, finalement, on apprend à la fin qu'elle a fini par être sauvée. Mais il n'y a qu'une survivante, une seule gamine qui est survivante. Et le héros, donc Joseph Lambert, au lieu de s'arrêter, d'essayer de voir ce qu'il peut faire, etc., il choisit de fuir. Et malheureusement, dans l'actualité, on entend souvent ce genre de choses. Des gens qui provoquent un accident, qui s'enfuient. Pourquoi est-ce qu'ils s'enfuient ? Là, j'avoue, je n'ai pas de réponse. Mais justement, ça m'intéressait d'essayer, le temps d'un roman, le temps d'un livre, de comprendre ce qui peut amener quelqu'un qui provoque une catastrophe comme celle-là. Quand même, des enfants brûlés vifs, quoi. C'est épouvantable. Mm-hmm. Comment cette personne peut ne pas réagir ? Apparemment.
Apparemment. Puis après, il y a le remords qui s'installe.
Il n'y a pas vraiment de remords.
Dans ce livre-là ?
À mon avis, alors, je sais, à un moment donné, je suis en train de chercher la page. Et à un moment donné, effectivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose, on va dire, qui pourrait ressembler à du remords. C'est presque vers la fin, un an au milieu du livre. Donc c'est Joseph Lambert est dans son bureau. Sa maîtresse, qui est sa secrétaire, est partie. Et voici ce passage très court. Il resta longtemps le front collé à la vitre, regardant vaguement le défilé des débardeurs, puis il porta une cigarette à ses lèvres. Au moment de l'allumer, une sorte de trop-plein lui monta de la poitrine dans la gorge et il éclata en sanglots. Toujours debout, les bras ballants, à regarder le canal que l'eau de ses yeux déformait. Il était seul et n'avait pas besoin de se cacher le visage. Ce du roman, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais c'est personnel comme interprétation.
On va peut-être commencer cette deuxième partie de Tourne-Page par une petite lecture.
Alors, peut-être on va essayer, parce que je pense que le mérite de ce roman, c'est nous présenter son personnage principal sans porter de jugement. Pour si maintenant, visiblement, un romancier n'a pas apporté de jugement. Et en même temps, il essaie de comprendre, donc d'aller au-delà des apparences et toute la complexité de ce roman. Par exemple, lorsqu'il écrit que le héros dit il avait décidé la veille en revenant de chez Léa, Léa c'est une prostituée, de ne plus se tracasser, de ne plus avoir de problème, comme il disait, et d'attendre les événements. Et en réalité, il passe son temps à attendre les événements. C'est quelqu'un qui attend. Alors, évidemment, les événements se déroulent sans lui. Tout le village, là où il habite, et la petite ville où il habite est en émoi. Ce car qui s'est renversé, ses enfants qui sont morts brûlés vifs, le chauffeur qui est mort brûlés vifs, la presse qui est là. Tout le monde attend avec anxiété des nouvelles de la petite fille qui a échappé à l'incendie. Il y a un service religieux qui est prononcé dans l'église, les parents des enfants sont là. Enfin, c'est absolument épouvantable comme situation. Et lui, ben lui, rien.
C'est donc,
il attend.
Il attend.
Il attend sans arrêt. Alors, il attend qui, il attend quoi. On sait que dans son couple ne marche plus. Apparemment, ça ne le trouble pas beaucoup. Il a des compensations, il a sa secrétaire. De temps en temps, il va voir une prostituée compréhensive. Les prostituées sont toujours très sympathiques chez Simon. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, bon, peu importe. Si, enfin, lui-même l'a raconté. Donc. Mais c'est quelqu'un qui n'agit pas, qui apparemment ne réagit pas.
Il n'a pas peur de se faire arrêter, par exemple.
Alors, il pense si. Il pense que les gendarmes vont le rattraper. Tout simplement parce que lorsque il conduisait la voiture, avant l'accident, il se rappelait avoir vu passer un chevrier. Et ce chevrier, il le revoit devant chez lui, enfin devant l'usine.
Mais là, c'est une question de regard uniquement.
Il ne se parle pas. C'est uniquement des regards. Et lui est persuadé que le chevrier l'a reconnu au passage. Et donc va aller le dénoncer à la police. Et il est tenté d'aller trouver ce chevrier pour régler le problème, pour en parler avec lui. Il prend même la voiture pour aller chez le chevrier, et puis il ne va pas jusque-là. C'est quelqu'un qui se laisse porter par les événements. Cela dit, honnêtement, pour faire simple, une belle ordure.
Oui, il est difficile de s'attacher à ce personnage.
Je ne veux pas dire qu'on s'attache à ce personnage, mais ce personnage est sans arrêt intéressant.
Alors c'est bien.
Oui, vous avez conduit, Bernadette, vous conduisez encore.
Oui.
Toute personne qui prend le volant n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri d'un accident. Si jamais vous arrivez de déclencher, même sans le vouloir, un accident mortel, comment réagiriez-vous? Je préfère que vous ne sachiez pas. Moi non plus. Mais c'est une question, je crois, que tout conducteur est amené à se poser un jour ou l'autre.
Vaste question, une question extrêmement importante.
Et c'est dans ce roman que Simenon nous aide à aller un peu plus loin dans ce questionnement.
C'est vraiment le héros qui est le personnage principal. Parce qu'on peut peut-être signaler entre parenthèses que la personne qui était avec lui dans la voiture ne parle jamais et qu'on ne sait jamais ce qu'elle pense.
Ah oui, sa maîtresse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les complices, parce que sa maîtresse, Edmond, est sa complice, finalement, puisqu'elle se tait, puisqu'elle était dans la voiture, et qu'elle ne dénonce pas. Ça fait partie de ces personnages féminins assez courants chez Simenon. Je pense à Piet le Lettron, et des choses comme ça. Ces personnages féminins qui ne disent rien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas, hein.
Non.
Ils ne disent rien.
Oui, mais là, on ne sait pas ce qu'elle pense.
On ne sait même pas si elle pense.
C'est un petit peu dur.
Non, non, non. C'est-à-dire que je crois qu'elle est, comme lui, elle est dépassée par les événements. Et je suppose qu'elle ne se sent pas le droit d'intervenir
d'avoir
à sa place.
D'avoir un avis.
D'avoir un avis. Enfin... D'avoir un avis, peut-être pas, mais peut-être, mais de le lui donner. C'est quand même son patron.
Mm-mm.
Et en même temps, on sait, par des allusions très précises, qu'elle est amoureuse de lui.
Ah bon?
Oui, quand il parle de leur relation, etc., on sent que quelque part, ça va au-delà d'une petite liaison comme ça. Paraît-il habituel à ton patron et sa secrétaire. Paraît-il.
On arrive déjà à la fin de cette émission et je vous remercie. C'était donc Simenon, les complices, et c'est paru là aussi en livre de poche. Merci à Émilie qui a assuré la technique de cette émission. Et moi, je vous dis à très très bientôt.
Au revoir.